Je tiens, avant de commencer, à préciser que je ne parlerai pas aujourd'hui des thématiques du théâtre de Félix Guattari, mais davantage du contexte philosophique qui l'a amené à écrire ce théâtre. Bon, on ne peut commencer ce colloque sans parler d'héritage. Et dans sa relation au théâtre, Félix Guattari a dû composer, selon moi, avec un double héritage, celui de Jean-Paul Sartre et celui de Jacques Lacan. Le premier a été très important dans sa formation intellectuelle, parce que Guattari était très jeune, engagé dans des échanges culturels et des coopérations de travail avec la Chine. Et il a accompagné Sartre et Beauvoir dans un voyage en Chine à l'automne 1954. Donc Sartre l'a marqué très tôt par ses talents de philosophe, mais ses talents de polygraphe et par sa capacité à allier écriture philosophique et écriture dramatique. Et Guattari va s'engager dans cette même voie dès 1979, date de sa première pièce de théâtre. Mais alors que Sartre est devenu le fer de lance de ce que l'on a pu appeler le théâtre à thèse, eh bien Guattari va prendre l'exact contre-pied de cette esthétique. Son théâtre va être tout sauf à thèse, tout sauf sérieux. Il va écrire un théâtre surréaliste, dada, et un théâtre que l'on pourrait qualifier de post-dramatique ou de adramatique, c'est-à-dire un théâtre qui fait écho au théâtre de Beckett et qui travaille sans cesse sur l'empêchement de l'action et sur la difficulté des personnages, des acteurs à devenir, à se constituer en tant que personnages. D'un autre côté, l'héritage de Jacques Lacan est aussi important que celui de Sartre. Avant que Guattari rencontre Deleuze, il a été un temps considéré comme un des dauphins de Lacan, un peu avant que Jacques-Alain Miller soit désigné comme son successeur. Il était spectateur régulier du séminaire, il était membre de l'école freudienne, mais c'est à partir d'un article intitulé Machine et structure de 1969 que Guattari amorce une critique du structuralisme et accélère sa rupture avec Lacan. Malgré le fait que le concept de machine soit déjà abordé par Lacan dans ses séminaires dès 1954, et même si Lacan a déjà commencé à exprimer des réserves au sujet de l'interprétation freudienne du complexe d'Œdipe. Deleuze, dans le même temps, est en train, lui aussi, de se désolidariser avec les thèses dominantes de l'époque. Pour lui, le structuralisme se révèle être plutôt un écran opaque qui empêche de penser, et notamment la figure du schizophrène qu'il va commencer à interroger sous sa forme clinique et sous sa forme littéraire. À la structure, Deleuze et Guattari vont commencer à opposer la machine, et la machine va devenir un élément essentiel du dispositif d'analyse des deux philosophes, mais aussi du dispositif d'écriture littéraire de Guattari. Deleuze, dans ses livres avant la rencontre avec Guattari, considère le théâtre comme un art qui donne à penser, qui force à penser, puisqu'il va lui emprunter des concepts qui deviendront des concepts clés de sa première période d'écriture, c'est la période dite des monographies. Donc je veux parler spécifiquement du concept de dramatisation, mais aussi ceux de théâtre de la répétition, théâtre de la différence, qui jalonnent différence et répétition. Et lorsque Deleuze rencontre Guattari, et lorsque cette rencontre se cristallise dans l'écriture à quatre mains de l'anti-Œdipe, eh bien la vision du théâtre va subir un revirement chez l'un et chez l'autre. Et c'est un revirement qu'on peut comprendre en lisant la présentation de Sa chère Mazoc que Deleuze a écrite quelques années avant, en 1967. Parce que Deleuze, déjà, comparait dans ce livre le théâtre érotique sadien et le théâtre érotique de Mazoch. Et il faisait apparaître le premier comme un théâtre de structure et le second davantage comme un théâtre machinique. Pour Deleuze, Sade lie l'expression du désir à une structure, à une mise en scène qui est mimétique. Le grand libertin est présenté comme un metteur en scène, un ordonnateur du dispositif érotique. Alors que Mazoch conçoit le désir en termes de machine, il produit davantage des combinatoires qui ressemblent davantage à des rites qu'à des situations dramatiques. Or, comme tout rite appelle une réitération, le désir machinique est exprimé dans une répétition de la différence. Donc, selon Deleuze, alors que Sade s'en tient à une répétition du même, une monotonie sadique, dira-t-il, qui cherche indéfiniment à combler l'écart entre la situation qu'il a sous les yeux et la situation qu'il voudrait avoir, eh bien, le théâtre de Mazoch se rapproche de l'idée d'un théâtre machinique. Dans l'anti-Œdipe, on va retrouver ce même changement de paradigme entre la structure et la machine qui va être expérimenté cette fois-ci à propos de l'inconscient, qui ne va plus être présenté comme un théâtre, mais comme une usine. Le théâtre contre l'usine va traduire la tension qui s'installe entre la psychanalyse freudienne, sa relecture lacanienne, et la nouvelle schizoanalyse pensée par Deleuze et Guattari. Donc à la place du théâtre sadien, c'est le théâtre bourgeois freudien qui va être placé sous les feux de la critique cette fois-ci. Je n'ai pas besoin de rappeler que toute la pensée freudienne est jalonnée et nourrie par des références théâtrales, Œdipe bien sûr, mais aussi la métaphore de l'autre scène, la scène originaire, la scène primitive. Il se réfère à de nombreux auteurs dramatiques, Sophocle, Shakespeare, Wedekind, Schiller, Ibsen, Goethe. Et Deleuze et Guattari reconnaissent que Freud est, je cite, un génial lecteur bourgeois. Mais évidemment, dans cette formulation oxymorique, hein, puisque bourgeois n'est pas forcément un compliment de leur part, on comprend que ce que reprochent Deleuze et Guattari à Freud, c'est qu'il aime décidément un vieux théâtre un peu poussiéreux et que ses références manquent de modernité. Et puis ils en viennent à considérer que Freud fait tout simplement une mauvaise interprétation des pièces qui mettent en scène Œdipe, qu'il est proche du contresens, et que, selon eux, l'erreur de Freud, c'est de remplacer la production du désir par une représentation du désir. Et donc les deux auteurs ne vont pas hésiter à délivrer une lecture de la tragédie grecque, et en cela, ils vont se poser, je crois, comme de vrais dramaturges, au sens où on l'entend aujourd'hui au théâtre, c'est-à-dire en se posant comme des conseillers littéraires, hein, des responsables idéologiques qui indiquent dans quel sens on peut comprendre un texte. Et donc ce nouvel Œdipe de Deleuze et Guattari ne va plus être celui de mis en scène par Œdipe Roy dans la pièce Œdipe Roy, mais plutôt l'Œdipe d'Œdipe à colonne. Parce que l'Œdipe d'Œdipe à colonne n'est plus dans des problématiques familiales. Au contraire, il s'en échappe, il fuit, il est pris dans un mouvement de fuite et d'expérimentation existentielle. Et ce qui intéresse précisément Deleuze et Guattari dans Œdipe, c'est sa fuite littérale, sa fuite dans le réel. Et de quelle manière Œdipe devient un corps souffrant, un corps machine, et comment il fonctionne. Donc, Deleuze et Guattari vont dire que Œdipe ne peut plus être une métaphore de l'inconscient parce qu'ils rejettent de toute façon l'usage de la métaphore dans leur philosophie, parce que la métaphore repose sur un principe de mimésis, et ça, ils y sont clairement opposés. Mais au contraire, ils arrivent à l'idée que si le théâtre doit être pensé, il doit être dans le champ de la réalité et dans un champ immanent. Donc, dans l'anti-Oedipe, il ne cesse d'affirmer que la thèse de la schizoanalyse est simple, c'est que le désir n'est plus une représentation, mais le désir est une machine, une synthèse de machine, un agencement machinique. Et ce qu'il reproche à la psychanalyse, c'est d'avoir écrasé cet ordre de la production et de l'avoir reversé dans la représentation. Et une citation de l'anti-Oedipe résume très bien la situation, c'est que dans la psychanalyse, je cite, « l'inconscient cesse d'être ce qu'il est, une usine, un atelier, pour devenir un théâtre, une scène, une mise en scène. » Et il rajoute, « et pas même un théâtre d'avant-garde, comme il y en avait au temps de Freud, mais un théâtre classique, un ordre classique de la représentation. » Et ils ajoutent, « le psychanalyste devient metteur en scène pour un théâtre privé, au lieu d'être l'ingénieur ou le mécanicien qui monte des unités de production, qui se bat avec des agents collectifs de production et d'antiproduction. » Donc, pour Deleuze et Guattari, l'usine s'est imposée comme un dispositif qui est davantage ancré dans une réalité. Alors, le concept d'usine vient d'une utilisation du terme par Artaud dans le texte Van Gogh ou Le suicidé de la société. Le corps sous la peau est une usine surchauffée. Et le lieu où se produit le théâtre de la cruauté d'Artaud, eh bien, c'est sa propre chair dans laquelle s'inscrivent les fêlures, les désirs. Donc, notre propre corps n'est pas une scène où l'on joue et où l'on rejoue des scènes originaires qui ont été fixées par des récits mythiques. Pas du tout. Notre propre corps est une production d'action, est une production de passion, est une production de désir. Et on ne peut pas jouer nos désirs aujourd'hui comme on les jouait selon un ordre qui est devenu classique, le vieux théâtre grec, écrivent Deleuze et Guattari. Donc le désir comme production, le corps comme usine, appelle véritablement une autre dramaturgie que le théâtre de l'inconscient freudien. Et Deleuze et Guattari vont lui donner le nom de théâtre de la production, où l'enjeu n'est plus de représenter, mais de produire. Donc à partir de cette critique freudienne, un nouveau pas va être fait. Ce théâtre de la production, cette usine de désir, va prendre le nom de schizoanalyse. Et Félix Guattari, qui pratique l'activité d'analyste, va dès lors se définir comme schizoanalyste et non plus comme psychanalyste. Et dans son ouvrage autofictionnel qui s'intitule « Ritournelle », il raconte comment il se désolidarise de la théâtralité qui est inhérente à la psychanalyse. Donc je vous cite cet extrait. « J'ai découvert peu à peu l'autre face du mythe analytique avec une trentaine de patients à mes basques. Et je dois avouer que j'en garde un souvenir de cauchemar. Toute cette grappe humaine avec ses sollicitations permanentes, agglutinée à des drames devant lesquels les bras me tombaient. J'étais devenu le gourou, malgré lui, thème de vaudeville. J'avais envie de hurler, mais foutez-moi donc la paix. » Donc, la schizoanalyse s'impose aux deux auteurs comme une nouvelle dramaturgie de l'inconscient qui se positionne contre le prêt-à-penser freudien. Le schizoanalyste ne se demande pas face au patient qu'est-ce que ça veut dire, mais plutôt comment ça marche. Et le théâtre continue d'avoir un rôle dans le projet schizoanalytique. C'est que, alors que la représentation théâtrale est un ancrage sur une scène, eh bien la schizoanalyse s'attache à déterritorialiser les fantasmes, à les déterritorialiser, à les désartificialiser, à les démythifier, à les détragédifier et les ancrer davantage dans une réalité. Donc le théâtre de la production schizoanalytique ne va pas être un théâtre imaginaire de fantasmes, mais plutôt un théâtre de la vie, un théâtre du réel. Et il va vraiment devenir aberrant de vouloir plaquer la structure de la triangulation oedipienne sur chacun, alors que les situations de jeu et d'interrelation sont beaucoup plus complexes et polyvoques que la sphère familiale. Et j'emprunte cet exemple à l'anti-Oedipe pour preuve. Les enfants ne jouent pas seulement à papa et maman, mais ils jouent aussi aux sorciers, aux cow-boys, aux gendarmes et aux voleurs, aux trains et aux petites autos. Et le train n'est pas forcément papa et la gare n'est pas forcément maman. Donc on va avoir une redistribution des rôles dans la schizoanalyse et une réinvention des situations de jeu, des situations d'interrelation, que cela soit donc sur le plan de l'enfance, sur le jeu de l'enfant, ou sur le plan du théâtre. Donc on va avoir d'autres situations et aussi d'autres personnages. Oedipe ne va plus être au centre de la dramaturgie, mais il va y avoir d'autres personnages qui vont faire leur entrée sur cette scène schizoanalytique. Il va y avoir les artistes, les révolutionnaires, les schizophrènes, qui vont devenir donc les acteurs de cette dramaturgie. Et il va véritablement y avoir un choc entre ces deux dramaturgies, un choc frontal. Et Deleuze et Guattari décrivent avec beaucoup d'humour comment la psychanalyse et la schizoanalyse en viennent à être véritablement des scènes radicalement différentes. Je les cite. Si l'on forçait un psychanalyste à entrer dans les domaines de l'inconscient productif, il s'y sentirait aussi déplacé avec son théâtre qu'une actrice de la Comédie française dans une usine, qu'un curé du Moyen-Âge dans une chaîne d'ateliers. Alors voilà, qui dit nouvelle dramaturgie dit nouveau jeu, nouvelle situation, nouveau type de personnage. Et ces artistes, ces révolutionnaires, ces schizophrènes vont être reliés par une première caractéristique, c'est que ce sont tous des hommes de désir. Ensuite, ils sont souvent en marche, en promenade. Et pour ça, Deleuze et Guattari prennent en exemple l'épisode de la promenade de Lenz dans la nouvelle de Büchner. Lenz, c'est Jacob Lenz, est aussi un dramaturge et disciple de Kant, qui incarne dans cette nouvelle un personnage qui est assailli par des troubles psychiques qui lui font penser au suicide. Et Deleuze et Guattari remarquent que ce Lenz est en marche, en promenade, et que cette marche, ce personnage en marche, va devenir symboliquement une posture schizoanalytique qui va s'opposer à la posture psychanalytique du névrosé couché sur son divan et dans une station immobile. Et de la même façon, donc des personnages beckettiens vont être souvent juchés sur des vélos, vont être dans des déplacements perpétuels, par exemple dans Quad. Et donc ces personnages vont donner à comprendre de véritables corps-machines qui vont être pris donc, dans des mouvements. Et comment va se passer, comment va se penser le dialogue entre ces nouveaux personnages, entre ces personnages corps-machines ? Eh bien, le propre des corps-machines, c'est qu'ils sont dans une connexion permanente avec d'autres machines, donc soit la grande machine de la nature, soit d'autres machines célibataires qu'ils rencontrent. Et le dialogue entre deux personnages schizoanalytiques, donc ça ne va plus être un échange entre deux psychologies, mais plutôt un échange transversal de flux et de connexions. Et c'est vrai que cette économie de flux de désir entre corps-machine, eh bien, on peut la retrouver transposée au théâtre, notamment lorsqu'on s'intéresse aux travaux du metteur en scène russe Meyerhold, qui a travaillé lui aussi sur une conception de l'interrelation non psychologique entre ces personnages. C'est-à-dire qu'on a assisté chez Meyerhold à des interrelations sur le mode de l'action et sur le mode de la réaction physique entre les acteurs. Finalement, je pense que le constructionnisme de Deleuze et Guattari font écho au constructivisme du théâtre meyerholdien. Et Meyerhold considérait, bien avant les deux philosophes, donc la représentation théâtrale comme une production. Le décor n'était pas illustratif, mais utilitaire et fonctionnel. Il était conçu comme une machine scénique, une machine-outil. Et il ne mettait plus en scène, il construisait. Et l'acteur était soumis à une nouvelle technique de jeu, la biomécanique, qui faisait que l'artiste n'était plus seulement interprète, mais aussi ingénieur. Donc, à partir de ces éléments-là, Deleuze et Guattari vont se réapproprier cette dramaturgie schizoanalytique dans le champ de l'analyse littéraire et dans le champ de l'écriture dramatique. La dramaturgie schizo, comme il va être conçue, enfin comme elle va être conçue, va ouvrir la voie vers le concept de minorité, et en particulier vers le théâtre mineur, que l'on peut retrouver dans Kafka pour une littérature mineure, lorsque Deleuze et Guattari s'intéressent au théâtre yiddish, qui est un processus de minoration chez Kafka qui travaille la langue et la représentation. La dramaturgie schizo va aussi ouvrir sur le concept de devenir animal qui peut nous aider à penser l'acte mystérieux qui est la prise de rôle, qui est l'incarnation d'un personnage par un acteur. Si la prise de rôle n'est plus dans la mimésis, dans un acte d'interprétation mimétique, eh bien, elle peut aussi passer par le devenir personnage. Et donc, comment un acteur devient son personnage, comment fait-il ? Eh bien, le devenir personnage, c'est une manière d'être en contact avec des vitesses et des affects d'un corps différent, sans qu'il y ait imitation, sans qu'il y ait représentation. Et puis, cette dramaturgie schizo se retrouvera dans Mille plateaux. Kleist y est beaucoup abordé, notamment avec son théâtre machine de guerre. Carmelo Bene aussi sera une machine actoriale pour Deleuze. Et donc, dans l'écriture de Guattari, on va retrouver ces présupposés et cette opposition entre structure et machine. Alors, je n'aurai pas le temps d'aborder les enjeux dramaturgiques des pièces de Félix Guattari ici, mais par manque de temps, mais vous pouvez trouver des présentations de son théâtre dans le nouveau numéro de la revue Chimère, qui vient de paraître et qui s'intitule donc Chaosmos, pensée avec Félix Guattari. Et ce que j'aimerais pointer du doigt en conclusion, c'est que on constate qu'il y a une disjonction entre la production théâtrale de Félix Guattari et ses propositions philosophiques, et notamment par rapport au concept de représentation qu'il s'est attaché donc à critiquer et à dépasser. Son propre théâtre ne fait pas de réelles propositions pour sortir de la représentation théâtrale, parce qu'on est toujours plus ou moins dans une configuration scène-salle, plutôt classique. Alors certes, parfois, des personnages se nomment H1, H2, H3, un peu comme dans le théâtre de Sarraute ou dans le théâtre de Beckett, mais on sort jamais véritablement d'un théâtre de la représentation et on est très loin des propositions d'un théâtre d'intervention, d'un théâtre de happening, etc. Donc je voudrais finir sur cette question avec tout le bagage possible et inimaginable qu'a un philosophe. N'y a-t-il toujours pas un risque quand il se frotte au théâtre, eh bien, qu'il soit happé par le théâtre lui-même et happé par cette représentation qu'il combat dans les idées, mais que la scène, finalement, lui impose. Et j'ai relu récemment un entretien de Claude Régis qui a commencé à travailler sur le théâtre de la non-représentation, donc qui est dans cette problématique de chercher un théâtre qui se passe de la représentation. Et il dit avoir commencé à travailler sur cette problématique dès qu'il a lu les pièces de Duras, et notamment une pièce qui s'appelle « Avec les viaducs de la Seine-et-Oise ». Et puis, il raconte dans cette interview qu'après cette pièce, je le cite, « Duras s'est fait avoir par les règles du théâtre ». C'est-à-dire qu'elle a, pour lui, elle a recommencé à écrire du théâtre de la représentation. Et puis, de nouveau, dans la menthe anglaise, il a retrouvé cette veine du théâtre de la non-représentation. Donc, finalement, je me pose la question, peut-être que Guattari aurait eu besoin d'un metteur en scène de la trempe de Claude Régis, qui possède le langage du théâtre, qui possède le langage de la scène, pour l'aider à dépasser l'impératif de la représentation et pour véritablement appliquer ses propositions philosophiques sur la scène de théâtre. Je vous remercie.